On commence par voilà, le décryptage diabète de type 2, la prise en charge et on continue avec votre diaporama. D'accord. Allez-y.
Donc j'ai un peu découvert hier soir le diaporama de Monsieur Rigalot. Alors pour parler d'insulinothérapie dans le diabète de type 2, on est dans la vraie vie, je dirais, souvent. On n'est plus trop dans les nouvelles pratiques de l'EASD, mais c'est notre vie quotidienne. Alors il avait montré cette slide pour nous rappeler que on pouvait se baser sur la glycémie à jeun pour modifier, je pense, nos pratiques ou nos prescriptions d'insuline, parce que l'hémoglobine glyquée augmente au fur et à mesure en parallèle avec la glycémie à jeun. Donc a priori, la glycémie à jeun est en noir, là, sur cette diapositive, et la glycémie postprandiale est à jeun. Donc on voit que plus la glycémie à jeun augmente, plus l'hémoglobine glyquée augmente. Et comme nos indications d'insulinothérapie vont être souvent liées à l'hémoglobine glyquée, on pourrait se baser sur cette glycémie à jeun, ce qui ferait une surveillance moins lourde pour le patient et pour le médecin, peut-être. Ensuite, sur cette diapo, il montrait l'évolution parallèle de l'hémoglobine avec l'utilisation de différents types d'insulinothérapie. Donc des insulinothérapies basales seules en rouge, des insulinothérapies prandiales, donc qui mélangent, je suppose, des basales et des rapides, et des insulinothérapies biphasiques type mix 30 ou 50. On voit que dès le début de l'utilisation, en 6 mois à peu près, on a déjà un très bon résultat sur la baisse de l'hémoglobine. Et on voit aussi qu'avec le temps, la basale seule donne d'aussi bons résultats que les mélanges ou les schémas basal-bolus. Alors là, c'est un peu plus petit, mais a priori, ce sont les recommandations, les dernières recommandations qu'on avait eues pour le passage à l'insuline, et ça, on pourra peut-être en reparler par la suite. Donc, en fait, ce qui était dit, c'est que on va passer à l'insuline quand le diabétique de type 2 utilise déjà des ADO à dose maxima, donc souvent deux ou trois types d'ADO associés. Et à ce moment-là, si on n'est pas à l'objectif de l'hémoglobine glyquée, qui malgré tout reste à 7% pour être correctement équilibré, si on n'est pas à l'objectif, on a le choix entre un passage à l'insuline et un passage aux analogues du GLP-1. Ensuite, il y avait des recommandations qui conseillaient comment titrer l'insuline quand on passait à une insulinothérapie chez le type 2, qu'il fallait commencer de préférence par une insulinothérapie basale, plutôt le soir, pour améliorer la glycémie à jeun, et comment augmenter progressivement les doses en faisant des contrôles de glycémie, et que surtout cette insulinothérapie était à réaliser en ambulatoire, donc a priori ne nécessitait pas d'hospitalisation. Il y a quelques années, on faisait beaucoup d'hospitalisations pour les passages à l'insuline. Maintenant, on les fait bien sûr en ambulatoire, surtout quand c'est de la lente seule. Alors, sur cette diapositive, apparemment, M. Rigalot trouvait que tout le monde était insatisfait. Alors, c'est vrai que comme je n'ai pas parlé avec lui à ce sujet, je ne sais pas trop de quoi, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes. Alors, est-ce que ça vient du patient, du médecin généraliste, du médecin spécialiste? Tout le monde, je crois qu'on n'est pas très satisfait ni de ce que l'on fait, ni de ce qu'on pourrait faire, parce qu'on est un petit peu coincé dans les structures. Alors, les plaintes, ce n'était pas de diagnostic, pas de RHD, pas de prescription. Alors, pas de prescription de la part de qui? Je ne sais pas, Sylvie, si vous en aviez parlé avec lui.
Non, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas pu m'entretenir
Alors, sur pas, ce point. Pas d'éducation, donc ça, peut-être, on est tous concernés. Pas de formation, alors de qui? Des médecins, des infirmières. Pas de communication sur quoi, entre qui, pas le temps. Ça, c'est vrai que c'est très chronophage, pas de reconnaissance. Et une fois qu'on est passé à l'insuline, on a des résultats qui sont pas très satisfaisants. Ça aussi, j'en parlerai après. Les résultats sont pas bons. L'hémoglobine glycée reste souvent élevée. On a peur des hypoglycémies. Et effectivement, les patients ont plus tendance à faire des hypoglycémies sous insuline que sous ADO, bien que on verra après avec la basale. On peut en discuter, surtout avec les nouvelles insulines basales. Et prise de poids massive, c'est ce qu'on peut craindre, mais ce qui n'est pas toujours réel avec les basales non plus. Sur cette diapositive, justement, pour la prise de poids, on voyait que les basales qui sont représentées en rouge sur la courbe sont celles qui font prendre le moins de poids par rapport au schéma basal-bolus et au mix. Les hypoglycémies que l'on craint et qui effectivement peuvent être très dangereuses, on voit représenter un accident de la route, sont aussi moins importantes chez les patients en basal seul par rapport aux autres qui ont un mélange basal bolus et insuline mix. Et donc, effectivement, les nouvelles insulines lentes, la glargine U300 et la dégludec, provoqueraient moins d'hypoglycémie, dégludec surtout la nuit, mais en fait, on est un peu plus rassuré à l'utilisation de ces insulines-là par rapport aux autres par lesquelles on commençait auparavant, qui étaient plutôt NPH, Levemir, voire Lantus. Surtout avec NPH, on avait pas mal d'hypoglycémie nocturne quand on le mettait en bedtime. Donc le nombre d'hypoglycémie là est réellement effectivement diminué avec ces nouvelles insulines. Là, il y a une comparaison glargine U300 avec glargine 100. Et donc c'est plutôt rassurant de savoir que les insulines qu'on va utiliser donnent moins d'hypoglycémie. Là, c'était, je crois, une comparaison entre...
Oui. C'est les titres de Bright donc, dont Serge Alimé parlait tout à l'heure.
Oui.
Ou Monsieur Raka. Non, c'est Monsieur Raka qui en parlait tout à l'heure. Oui.
Donc, bon, je ne vais peut-être pas m'y attarder, alors, si on en a déjà parlé. Et donc, en fait, là, il rappelait que sur cette étude où il y avait 836 patients sous insuline basale, 60% n'étaient pas à l'objectif, c'est-à-dire qu'ils étaient au-dessus de 7, et 28% étaient encore au-dessus de 8%. Et moi, j'en parle un petit peu après dans notre pratique. C'est vrai qu'on a une certaine inertie tous à augmenter les doses d'insuline, et parce qu'on redoute les hypos essentiellement, et donc on pourra ensuite parler de ça. Et 36% n'adaptent jamais ou rarement leur dose, soit parce qu'ils n'ont pas été éduqués, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que les raisons sont multiples. Voilà. Donc là, c'était aussi une étude qui montrait qu'avec une intensification des traitements et une meilleure éducation, on évitait les hypoglycémies et également les hypoglycémies sévères. Voilà, donc je suis désolée de ne pas détailler plus son message, mais je n'ai pas eu de contact avec lui.
Alors je voulais juste revenir, on parle beaucoup de glycémie à jeun, on parle moins de glycémie postprandiale. J'ai cru lire, mais peut-être que j'ai mal lu, que la glycémie postprandiale était corrélée au risque cardiovasculaire. Est-ce que je me trompe ou pas ? Monsieur Renard ?
C'est un débat qui est difficile à trancher parce que c'est difficile d'avoir une glycémie postprandiale isolée, seule. Et donc, c'est des éternels débats d'experts pour savoir si c'est que la postprandiale ou si c'est la glycémie globale. Mais on a du mal à avoir une glycémie postprandiale élevée et pas de glycémie globalement élevée. Donc, c'est très difficile de trancher. En fait, comme l'a dit madame, les études de Louis Mounier montrent que pour les patients qui ont des hémoglobines glycées élevées, c'est plus efficace de cibler la glycémie à jeun. Parce que si on normalise la glycémie à jeun, on va faire baisser beaucoup l'hémoglobine glycée. Mais quand on s'approche de la cible, par contre, c'est sur la glycémie postprandiale qu'il faut travailler. Donc en fait, c'est une question de stratégie. Au plus le patient est élevé en hémoglobine glyquée, au plus il faut d'abord normaliser la glycémie à jeun, donc travailler sur la suine basale. Mais quand on s'approche des 8%, là par contre il faut affronter la postprandiale. Et c'est ce qui fait un peu le succès des combinaisons maintenant, GLP-1, insuline basale, parce qu'effectivement ça permet d'affronter les deux sans prendre trop de poids et sans faire trop d'hypoglycémie. Parce que dès qu'on va viser à la baisse de la glycémie postprandiale, on va augmenter le risque d'hypoglycémie.
Merci. Est-ce qu'on a le diaporama ? Ah. Bon, on va faire avec.
Donc moi, j'ai fait une présentation très dans la vraie vie, en fait. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on me demandait, de la pratique de l'insulinothérapie et surtout du passage à l'insuline, en fait. Et donc, effectivement, je pense que dans la vie du diabétique, il y a deux grands moments. Il y a le moment où on lui annonce qu'il a du diabète. Votre taux de sucre est trop élevé, vous avez du diabète. C'est l'orage dans sa vie, c'est le coup de foudre négatif.
Dans le mauvais sens.
Négatif. Et le deuxième moment, c'est quand on lui annonce qu'il va falloir qu'il passe à l'insuline. L'injection d'insuline permettrait de mieux vous équilibrer. Qu'en pensez-vous ? Et on verra que pour certains, ils ont vraiment cette image que j'ai mise en dessous. C'est la mort, quoi. L'insuline, c'est grave. Alors pourquoi faut-il passer à l'insuline ? Eh bien parce que l'évolution de la pathologie fait qu'à un moment, on a besoin d'apporter de l'insuline parce que l'organisme n'en sécrète plus suffisamment. Chez le diabétique de type 2, au départ, il en sécrète toujours un peu, mais au fur et à mesure des années, ça s'amenuise. Et donc, au bout de quelques années d'évolution, même quand la pratique des règles hygiénodiététiques est respectée, on a souvent besoin de passer à l'insuline. Et on s'aperçoit que 43% à peu près des diabétiques de type 2 ne sont pas équilibrés et qu'à un moment, il faut qu'on leur propose ce type de traitement. Alors malgré tout, pour les patients et peut-être pour les médecins aussi, le passage à l'insuline, ça reste quelque chose de très difficile, c'est une épreuve, c'est un endroit où on n'a pas trop envie d'aller. C'est un peu sombre, là, mes images, mais c'est ce qui ressort des mots utilisés par les patients quand on leur en parle. Alors, l'insuline, bizarrement, ça fait bientôt 100 ans qu'elle est utilisée, mais elle est toujours aussi effrayante et toujours aussi méconnue des patients. Alors, j'ai fait une petite enquête dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai, comme ça, sur le vif, interrogé 41 patients en consultation ou dans les ateliers. Et je leur demandais de répondre spontanément à la question « Si on vous dit insuline, vous dites quoi ?» Alors, 7 sur 41 disaient que c'était un traitement pour le diabète. 8 sur 41, 20% à peu près, répondaient de façon, une réponse physiologique du type « c'est sécrété par le pancréas, ça sert à faire baisser l'insuline ». Ces deux groupes, je les ai mis en rouge parce qu'en fait, c'était des non-diabétiques qui répondaient comme ça. Et en bleu, ce sont les diabétiques. Donc 17% ont une idée plutôt positive. Ça aide à baisser la glycémie. Donc c'est un traitement, c'est un bon traitement pour moi. Par contre, 41,4% ont une idée négative de l'insuline. Et presque 5% très négative, et c'est eux qui parlent de mort. Et les mots qu'ils utilisent dans le groupe qui a des idées négatives sur l'insuline, c'est ça. C'est si je passe à l'insuline, c'est que je suis en échec. Il ne faut vraiment pas que j'en arrive là. Il faut absolument éviter ça. Ce n'est pas du tout agréable. Si on me parle d'insuline, c'est que ce n'est vraiment pas fameux. Malheureusement, je suis obligée d'y passer. Je me sens coupable parce que ça veut dire que je n'ai pas réussi à faire quelque chose. Voilà. Alors, à l'extrême, c'est vraiment, voilà, l'insuline, c'est l'extrême, c'est pire que tout, c'est mauvais signe si on me parle de ça, j'arrive à être dans la dépendance. Le mot qui revient le plus souvent, aussi bien chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, c'est contraignant. Et deux personnes ont dit, l'insuline, c'est la mort. Alors, quand on doit passer à l'insuline, il y a des résistances des deux côtés, aussi bien du patient que du médecin. Donc cette résistance, je l'ai appelée insulino-résistance du médecin, quand on demande au médecin pourquoi il résiste, il va nous dire c'est parce que le patient n'est pas suffisamment informé et éduqué. Oui, mais bon, qui doit le faire ? Ensuite, la deuxième raison, c'est on mise un peu sur les règles hygiéno-diététiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une mauvaise hémoglobine glycée, il faut toujours demander est-ce que vous respectez votre schéma de repas, est-ce que vous pratiquez un exercice physique. Il faut toujours revenir sur ces bases-là avant d'augmenter le traitement. Et peut-être qu'on se dit, ben, c'est sûr qu'ils ne le font pas bien, donc on attend qu'ils le fassent bien. Et ensuite, dans 25% des cas, ce serait le patient qui refuserait. Alors, les freins essentiellement retrouvés chez les médecins, c'est plutôt le manque de connaissances et d'expérience de l'insulinothérapie. C'est le temps, c'est très chronophage d'expliquer à un patient, je vais vous mettre sous insuline, donc je vais vous montrer comment faire votre injection. Après, bien sûr, on peut déléguer, mais je pense que c'est important, si on montre le stylo au patient, il se souviendra que déjà vous lui avez montré, si après une infirmière ou quelqu'un d'autre lui remontre. La peur des hypoglycémies chez le médecin, parce que c'est un risque pour le patient, il risque d'être dérangé, il est moins tranquille. La prise de poids, on a vu que c'était pas forcément dans les schémas de base un vrai problème, sauf si on arrive à des doses très importantes, comme on voit parfois. Le doute sur l'observance, donc ça, on l'a à tous les niveaux, que ce soit les ADO ou l'insuline, mais la crainte de la réticence du patient, ça, on voit sur l'image de gauche que c'est peut-être pas le vrai problème, et la crainte de la prescription chez le sujet âgé, parce que risque d'hypo, mais c'est quand même chez le sujet âgé que l'insulinothérapie va être intéressante, parce que souvent il a une insuffisance rénale, parce que souvent il est polymédicamenté et que l'insuline peut aider à mieux l'équilibrer et à supprimer des cachets. Et donc tout en bas de ma diapositive, il était écrit que tous ces freins font que généralement on ne passe pas à l'insuline avant que l'hémoglobine glycée soit à 9%, ce qui est largement tard. Et donc cette inertie, ça veut dire que beaucoup de médecins attendent 6 mois pour passer à l'insuline, dans 39% des cas. Dans 59% des cas, on attend 1 an. Et dans certaines études, on va jusqu'à 5 ans, voire plus. Donc pendant ce temps-là, tout se complique. Silencieusement, un peu sous l'eau, là, c'est ce que j'ai voulu représenter par cette inertie. Il ne faut pas qu'on s'endorme trop, quoi. L'insulinorésistance, elle va être aussi du côté du patient. Et chez le patient, on va trouver surtout 4 freins. La peur ou la phobie de l'injection, la peur de la douleur. Généralement, c'est des choses qui remontent à l'enfance, avec ces grandes aiguilles qui, Dieu merci, n'existent plus. Et quand on leur a montré les aiguilles, les stylos, et généralement après les premières injections, ces peurs diminuent, et si elles persistaient, là il faut faire appel plutôt au psychologue pour travailler là-dessus. Sur les fausses croyances et les autres freins, c'est qu'ils ont en tête des images d'insuline et de complications très graves, et qui leur font dire que c'est le début de la fin, le passage à l'insuline. Les fausses croyances, elles sont surtout dans le sentiment d'échec personnel et de culpabilisation. Et il faut essayer de travailler là-dessus pour les déculpabiliser en leur expliquant cette histoire du diabète sur le long cours qui fait qu'à un moment, l'insuline est plutôt là pour les aider. Et donc, si je passe à l'insuline, c'est le début de la fin, c'est pareil. Faire exprimer aux patients peut-être une histoire familiale de complications sévères qui le freinent. Expliquer que l'insuline, c'est efficace, parce que c'est quand même, on l'a vu sur la diapositive de M. Regalo, en moins de 6 mois, on a quand même une baisse d'hémoglobine glycée très intéressante. et faire bien leur expliquer que si on veut que leur hémoglobine glycée baisse, c'est parce que plus elle est proche de 7, voire en dessous, et moins il y aura de complications. Et plus on passe tôt à l'insuline, et moins on aura ces complications également. Et une fois qu'on est passé à l'insuline, qu'est-ce qui se passe? Donc, le plus souvent, la plupart des patients sous insuline sont en basale seuls, 43,7%, mais seuls 32% sont. Non, pardon. 32%, malgré tout, ne sont pas équilibrés. Et 74% des patients sous insuline basale n'adaptent pas leur dose d'insuline. Donc, soit parce qu'ils n'ont pas été éduqués, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils n'ont pas bien compris, soit parce qu'ils n'ont pas de relais ou personne à questionner s'ils hésitent. Ils sont un peu seuls, quoi. Donc, tout ça nous amène à réfléchir à comment on peut faire pour faciliter ce passage à l'insuline. Alors, bien sûr, il y a l'éducation thérapeutique qui serait... le moyen idéal, qui veut dire que nous communiquons avec le patient, nous essayons de lui expliquer qu'il faut y aller et essayer de répondre à ses questions. Donc voilà quelques questions ouvertes qui pourraient nous aider à aborder le sujet avec eux. Quels sont les points positifs dans la prise en charge actuelle de votre diabète? Quels sont les écueils, selon vous, de cette prise en charge? Que savez-vous du mode d'injection sous-cutané? Quels seraient selon vous les désagréments liés à une injection sous-cutanée? Quels seraient selon vous les avantages? Et si ce traitement injectable devait améliorer votre équilibre diabétique, comment l'envisageriez-vous? Donc c'est un peu toujours cette technique d'amener le patient à se poser la question et d'essayer de répondre à cette question avec cette progression vers finalement... oui, il me faudrait cette injection et ça pourrait être bien. Donc tout ça, ça implique qu'il faudrait pouvoir travailler ensemble, déjà travailler avec le patient, discuter avec lui, prendre son temps pour lui expliquer, travailler en équipe avec des infirmières, qu'elles soient en ville ou dans les structures, avec les diététiciennes, avec les autres médecins, les médecins généralistes et les spécialistes. Peut-être que ça sera plus facile dans les maisons médicales qui se développent où on va avoir des spécialistes plus proches des généralistes ou des généralistes plus proches des infirmières. Enfin, tout ça, ce sont des réflexions justement qui sont un peu nouvelles dans la prise en charge du patient diabétique et qui sont en cours et pas du tout abouties. Alors moi, je dirais que j'ai la chance de travailler à l'Institut Diabète et Nutrition du Centre à Mainvilliers. Donc je l'avais présenté la dernière fois que j'étais venue. Donc c'est une structure qui est en fait un SSR où les patients sont 3 semaines en hospitalisation. On a 99 patients en permanence dans la structure. Ce sont des patients diabétiques. Il y a des types 1, mais plus de type 2 et des obèses. On est 6 diabétologues, une équipe d'infirmières, à peu près une vingtaine d'infirmières, des coachs sportifs qui sont en majorité des APA, des diététiciennes. On a 3 psychologues et 2 infirmières formées à la sophrologie et à l'hypnothérapie. On fait aussi un peu de recherche clinique. On fait de la diabétologie pratique, quoi. On utilise essentiellement l'éducation thérapeutique et pour aborder ce problème d'insulinothérapie, les patients travaillent en atelier. Alors en vert, on a les thèmes des ateliers qui abordent un peu le côté psychologique, le côté comment je vois mon diabète. Ça s'intitule « Le diabète en question »,« L'être à mon diabète et moi ». Et sur les côtés un peu plus pratiques, on a les ateliers adaptation des doses, traitement du diabète, atelier pompe, pour les passages à la pompe, où on mixe les patients déjà sous pompe et ceux qui n'en ont pas encore, pour poser leurs questions. Les ateliers capteurs et le choix des lecteurs de glycémie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment, passer à l'insuline, ça veut dire aussi contrôler sa glycémie une fois le matin à jeun, ou peut-être plus souvent dans la journée. Sur place, le patient apprend bien sûr à gérer son insuline, qu'elle soit lente ou que ce soit des schémas basal bolus. Les diabétiques ont tous, dès l'entrée, plusieurs contrôles par jour, 6 à 7 fois. La septième fois, c'est nocturne. Et à chaque fois qu'il y a une injection, l'infirmière réfléchit avec lui, ou le patient réfléchit avec l'infirmière, sur la dose qu'il va se faire. Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? Et quand on est surtout sur un schéma d'intensification avec les rapides, ça fait vraiment un bon exercice quand pendant 3 semaines, on se pose la question, est-ce que j'augmente, est-ce que je diminue, pourquoi je monte, pourquoi je diminue, avec l'infirmière 3 fois par jour. Généralement, ils sont aptes à adapter leur dose d'insuline quand ils sortent. Et donc, si on arrivait à travailler comme ça...
C'est la dernière diapo.
Oui, ça serait bien. L'objectif serait atteint et peut-être les patients nous diraient plus souvent si, quand on vous dit insuline. Et ça, ce sont des vraies réponses que j'ai eues de 2 patients seulement. Ça aide à baisser la glycémie, ça ne me fait pas peur. Les piqûres, ça fait du bien, ça fait effet sur les glycémies et ça serait plus haut sans les piqûres. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Dijoux. Donc, on a vu que c'était l'immersion dans, voilà, dans le traitement et dans la gestion de l'insulinothérapie. Pour rassurer les patients, je vais passer la parole au professeur Éric Renard, qui va développer en fait les avancées plus technologiques qui rassurent le patient et qui donnent des performances remarquables. Et donc, on va évoquer avec lui, alors, dans le diabète de type 1, ses avancées. À vous, professeur.
Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, bien entendu, on va pas parler des mêmes patients. C'est-à-dire que là, on a parlé des diabétiques de type 2 qui sont traités longtemps par des mesures génodiététiques et des médicaments. Et l'insuline, c'est pas le début de la fin, c'est la fin du début en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été traités d'une certaine façon et ils vont faire de l'insuline. Là, on parle des diabétiques de type 1. Donc les diabétiques de type 1, c'est une maladie différente. On devrait les appeler différemment parce que le mot diabète fait un peu confusion. Ces patients qui ont une maladie auto-immune qui fait en sorte que leurs cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas sont détruites à quasiment 100%. Et donc, eux, ils ont une nécessité vitale de faire de l'insuline. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce n'est pas une insuline basale, puis par la suite d'autres injections. C'est d'emblée un traitement par l'insuline, par des multi-injections ou des pompes. Donc, une maladie qui est d'emblée extrêmement contraignante, puisque on dit que c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait rien du tout et qui, tout d'un coup, se met à avoir soif, à uriner beaucoup. Il va être hospitalisé. Il va sortir de l'hôpital avec 4 injections d'insuline ou une pompe à insuline. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire que le diabète de type 2. Ça, c'est mes liens d'intérêt. Donc, comment ces patients se débrouillent? Alors, on a des données mondiales, puisque, comme je l'ai présenté à l'ESD tout récemment, en fait, on a cette grande étude qui a été faite dans le monde entier pour savoir comment les diabétiques de type 1 se débrouillaient pour atteindre la cible, qui est d'avoir une hémoglobine glycée à 7%, c'est un consensus international. Et vous voyez que dans cette enquête unique, hein, où il y avait 4000 patients pratiquement qui ont été inclus dans pratiquement tous les continents sauf l'Amérique du Nord, qui est d'habitude où on a toutes les données, mais là justement c'est les autres, c'est l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Et vous voyez qu'il y a à peine un quart des patients qui atteignent une hémoglobine glycée à moins de 7%. Et ça, quelles que soient les tranches d'âge, c'est un petit peu mieux chez les plus jeunes, entre 26 et 44 ans, mais on est à 27%. Et vous voyez qu'il y en a 40% qui ont plus de 8% d'hémoglobine glycée et 20% qui ont plus de 9% d'hémoglobine glycée. Donc c'est une maladie qui vous saisit d'emblée lorsque vous avez ça et qui est difficile à équilibrer puisque vous voyez que l'atteinte des cibles thérapeutiques, alors que les types 2 atteignent beaucoup plus cette cible thérapeutique. Alors si on se concentre un peu sur ce qui nous concerne directement, qui est l'Europe occidentale, ben, vous voyez qu'on ne fait pas beaucoup mieux puisque la moyenne c'est 27%. Des patients type 1 qui, adultes qui atteignent moins de 7%. Et ce qui est frappant, c'est que pourtant, la technologie est là. C'est-à-dire qu'il y en a quand même 42% qui utilisent des pompes, 46% qui utilisent une mesure continue du glucose, et 69% d'entre eux adaptent leur dose en fonction. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une maladie difficile à contrôler et que lorsqu'on apporte la technologie seule, eh bien ça ne suffit pas puisque les patients en fait n'arrivent pas à améliorer leur performance en termes d'hémoglobine glyquée. Alors évidemment, ça questionne pourquoi on est dans cette situation-là. Alors très certainement, il y a le problème de la visibilité et de la signification. Si vous dites à un patient, il faut être à moins de 7% et que vous n'expliquez pas pourquoi, 7% c'est une espèce de chiffre mythique, mais qui ne veut rien dire dans le quotidien. Alors c'est là où le fait d'avoir une mesure continue du glucose change un peu le scénario, puisque cette fois-ci, si on équipe le patient d'un appareil de ce type-là, il va avoir en permanence une information sur sa glycémie. Théoriquement, ça c'est des sujets normaux, la glycémie devrait rester en permanence entre 0,70 g et 1,40 g. Donc déjà, ça reste un peu plus visible. Les patients, vous savez qu'en France, il y a à peu près 80% des types 1 maintenant qui ont des systèmes freestyle libres, donc qui ont un accès simplement en scannant leur capteur à leur glycémie. Et donc si on leur dit il faut que vous soyez le plus possible dans cette zone-là, alors c'est peut-être un peu audacieux de leur dire de rester en permanence entre 0,70 et 1,40. Et sur le plan international, on a convenu que si déjà on arrivait à les maintenir dans une zone cible de sécurité entre 0,70 et 1,80 g, déjà ce serait un pas important. Ça leur permettrait d'avoir peu d'hyperglycémie et pas d'hypoglycémie. Alors on peut raffiner les choses en essayant de viser plus strict entre 0,70 et 1,40, qui est la normale. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'ils atteignent ça sans faire d'hypoglycémie. Et donc, si vous voulez, dans le diabète de type 1, le référentiel change. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire aux gens il faut que vous soyez à moins de 7% d'hémoglobine glyquée, mais on leur donne des objectifs visibles parce qu'ils ont une mesure continue. Et donc, on leur dit il faut que vous soyez dans cette zone-là le plus possible. Au mois d'août dernier, donc, j'étais co-auteur d'un papier qui, justement, a donné les recommandations. Et aujourd'hui, pour un diabétique de type 1 ou de type 2 qui utilise un capteur, c'est le cas pour les types 2 qui sont sous multi-injection ou pompe, eh bien vous voyez qu'il faut avoir plus de 70%, il n'y a pas de flèche ici, ici, voilà, plus de 70% du temps dans la zone cible entre 0,70 et 1,80 g, ce qui veut dire plus de 16h48 par jour. Et il faut avoir moins de 4% du temps en dessous de 0,70, moins d'1% en dessous de 0,54, qui définit l'hypoglycémie cliniquement significative, et moins de 25% au-delà d'1,80 g. Donc on peut espérer qu'avec ces chiffres-là, ça parle un peu plus aux patients. Alors il va rester, bien entendu, la nécessité d'ajuster le traitement pour atteindre ces cibles, mais ça parle sans doute plus qu'une cible de 7% d'hémoglobine glyquée qui reste assez globale et abstraite. La difficulté, bien sûr, c'est d'atteindre cette cible en ajustant les doses. Et l'espoir, c'est que ça puisse se faire automatiquement, au moins en partie. C'est ce qu'on appelle le pancréas artificiel ou la boucle fermée. Donc l'idée, c'est qu'on puisse mesurer la glycémie en continu, confier cette information à un algorithme, donc une formule mathématique, qui va calculer quelle est la quantité d'insuline nécessaire à chaque instant, pour que la glycémie reste dans ce fameux intervalle de sécurité ou d'intervalle strict. On appelle ça vulgairement le pancréas artificiel. Ce n'est pas vraiment un pancréas artificiel. C'est un système qui automatise la délivrance d'insuline. Et pour l'instant, uniquement pour les doses de base. Puisqu'au moment des repas, la glycémie bouge trop vite. Et donc, on n'arrive pas, avec l'insuline sous-cutanée, à adapter tout automatiquement. Alors, on en est là actuellement, hein, c'est un long chemin de progression. D'abord, il y a eu des systèmes qui arrêtaient la pompe à insuline en cas d'hypoglycémie, et puis ensuite, ça a arrêté en cas de prédiction d'hypoglycémie dans la demi-heure qui vient. Et puis, là, on en est là donc, à ce qu'on appelle des pancréas artificiels hybrides, c'est-à-dire des systèmes qui vont automatiser l'adaptation de la dose de base. Mais par contre, au repas, le patient doit renseigner, doit informer le système en disant « je vais manger tant de glucides ». Et il va avoir une proposition de dose pour justement ajuster ça. L'idéal, bien sûr, ce serait que ce soit complètement automatisé. Le problème, c'est que les insulines sous-cutanées ne sont pas assez rapides. Et donc, si on met tout en automatique, en fait, la glycémie va d'abord monter, puis chuter. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir des pancréas totalement artificiels, totalement automatisés. Alors, de façon concrète, comment ça se présente? Eh bien, vous avez... comment ça marche, schématisé sur ce graphique. Donc vous avez là ici un algorithme qui est dans un smartphone un peu trafiqué Et vous voyez que vous allez avoir, en fonction des fluctuations de la glycémie, une quantité d'insuline basale qui va être plus ou moins importante, le but étant de rester dans la cible. Lorsque la glycémie va avoir tendance à baisser, eh bien ça s'arrête. Lorsque la glycémie monte, eh bien il y a plus d'insuline qui passe. Lorsque ça chute de manière vertigineuse, eh bien le système va alerter le patient en disant « je fais tout ce que je peux pour éviter l'hypoglycémie, mais j'y arrive pas, il faut faire quelque chose ». Alors, il y a différents modèles de pancréas artificiel qui sont, ou de systèmes automatisés qui se développent. Les premiers donc, sont issus directement de la recherche. Donc, c'était, vous le voyez, trois pièces. Hein, donc, système avec un capteur qui mesure le glucose, une pompe à insuline et un smartphone ou une tablette qui va, où l'algorithme va intervenir, va faire la jonction entre le capteur et la pompe. Donc il y a un système qui est actuellement, dont on parle souvent en France, qui est le système Diabeloop, hein, qui utilise ce principe-là, avec une pompe qui n'est plus cette pompe, c'est le nouveau, maintenant c'est une autre pompe qui s'appelle Kaleido, un capteur Dexcom et un smartphone où l'algorithme va jouer, où le patient va pouvoir voir ses informations. Donc c'est des systèmes qui ont montré une certaine efficacité dans le contrôle glycémique. Ici vous avez deux exemples, hein, un exemple qui a été fait à Cambridge en Angleterre, où on a lié un système Medtronic avec un capteur, et entre deux, vous voyez qu'il y a un smartphone Samsung Galaxy, là, qui, où on a mis l'algorithme. Et donc le capteur envoie l'information au smartphone, où se fait le calcul de dose, et il va piloter ensuite la pompe. Vous voyez que chez des patients qui n'étaient pas très bien équilibrés au départ, eh bien, on a un gros bénéfice ici sur la nuit, avec une glycémie qui est bien, très bien contrôlée automatiquement la nuit, et surtout ce que les patients retiennent, c'est qu'ils se lèvent avec une glycémie normale à jeun. Et ça, c'est pour un patient diabétique traité par l'insuline, c'est extraordinaire d'avoir une glycémie qui est quasiment tous les matins normale, ce qui fait que la journée va être plus facile, évidemment. Dans la journée, la différence est moindre par rapport au bleu où on a le système non automatique, puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas complètement automatique, hein, puisque au moment des repas, c'est manuel. L'autre dia, c'est le système Diabeloop. Vous voyez qu'on obtient aussi des performances, donc surtout une différence en rouge par rapport au grisé qui est meilleur sur la nuit aussi. Dans la journée, moins de différence puisque forcément, ce n'est pas complètement automatisé. Alors que pensent les patients de ces systèmes, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de faire des essais cliniques, mais de demander aux patients qui ont fait les essais qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, juste un mot pour dire que ces systèmes ont été testés de manière prolongée sur ici 6 mois. Et on voit qu'on obtient des contrôles qui sont très bons, puisqu'on a 77% du temps dans la cible. Et c'est valable aussi bien la nuit que le jour. Vous voyez, 78% de glycémie dans la cible la nuit et 76% le jour. Au plus les patients sont en boucle fermée, au moins ils vont faire d'hypoglycémie. Et au meilleur est leur hémoglobine glyquée. Donc ces systèmes ont montré leur efficacité, leur durabilité. Maintenant, si on prend l'avis des patients, puisque ça c'est des résultats, je dirais, scientifiques et médicaux, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'en pensent les patients, eh bien leurs avis sont partagés en fait. C'est-à-dire qu'ils sont d'une manière générale contents du fait que c'est assez facile à mettre en place, à calibrer, les instructions données par les médecins, les infirmières sont bonnes, ça a l'air assez fiable. Par contre, ce qui les gêne, eh bien, c'est que c'est des systèmes qui sont trop encombrants, trop apparents, et que dans certaines circonstances de la vie, ben, ce n'est pas très sympa quand on veut aller se baigner, faire de l'exercice, du sport, etc. C'est des systèmes contraignants. Comme il y a trois pièces, évidemment, elles ne se demandent qu'une chose, hein, c'est comme votre téléphone portable, c'est à se déconnecter. Donc évidemment, s'ils sont occupés à faire quelque chose et que la pompe se déconnecte du smartphone ou le capteur, il faut tout rebooter pour que ça remarche. Et donc c'est leur plainte principale, c'est que ces systèmes sont intéressants, sont sécurisants, mais par contre un peu encombrants au long cours. Et bon nombre de patients qui ont fait ces essais, en fait, ils disent eh ben, finalement, on était bien content de finir l'essai parce que c'était bien pour la glycémie, mais pour moi, c'était un peu contraignant. Alors, dans cet esprit-là, eh bien, se développent des systèmes intégrés. Donc, il y en a trois qui sont actuellement en développement avancé. Alors, un qui est déjà commercialisé aux États-Unis depuis 2017, qui est le système donc, Minimed 670G. Donc, c'est un capteur sous-cutané qui mesure le glucose en continu, qui envoie l'information à la pompe. Dans la pompe, il y a l'algorithme, donc il n'y a plus de smartphone, et la pompe donc, va infuser de l'insuline en fonction des données glycémiques. Le deuxième système qui est actuellement en expérimentation en France chez l'enfant, Nadia en parlera sans doute, dans quatre centres français, qui est expérimenté aux États-Unis déjà, eh bien, c'est le système Tandem Control IQ. Donc c'est une pompe Tandem, qui est une pompe sous-cutanée classique, mais qui est connectée à un Dexcom G6, et l'algorithme est aussi dans la pompe, et donc ça permet de ne pas avoir trop d'encombrement de système. Un troisième qui est actuellement encore en cours de développement, mais avec des essais cliniques très prometteurs, c'est le système Horizon, qui comprend l'Omnipod, cette pompe sans cathéter, qui a beaucoup de succès depuis 2-3 ans en France, connectée aussi au Dexcom, avec une boucle fermée, l'algorithme étant mis en place dans le pod, et donc là aussi il y a une forte intégration du système. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça, c'est les données 670, donc Minimed, qui ont permis donc, la commercialisation aux États-Unis. Donc, vous voyez que chez les adolescents, en rouge, quand on est en boucle fermée, eh bien, la glycémie est plus pincée qu'en gris lorsque c'est en boucle ouverte. L'hémoglobine glyquée est meilleure. Il y a plus de temps dans la cible. Vous remarquerez quand même que pour des adolescents, c'était des adolescents assez sérieux, hein, puisqu'ils sont à 7,7 d'hémoglobine glyquée, ce qui n'est sûrement pas l'adolescent au quotidien. Les adultes étaient assez bons aussi au départ, ils étaient à 7,3 d'hémoglobine glyquée, mais ils passent à 6,8 et ils ont une glycémie qui est beaucoup plus pincée, mieux contrôlée. Alors ça, c'était les essais pour avoir le remboursement. Maintenant, dans la vie réelle, donc on a eu les publications, le rapport là, tout récent dans Diabetes Care de l'équipe de Stanford en Californie qui avait présenté ces données à l'ADA. Eh bien, on est moins satisfait, je dirais, puisque enfin, c'est surtout les patients. Puisque vous voyez que si au début il y a une forte adhésion au système et un fort fonctionnement automatique, vous voyez qu'au bout d'un an, eh bien, il y en a beaucoup moins qui fonctionnent souvent en automatique. Il y en a 46% qui ont en fait un système de pancréas artificiel qui ne fonctionne plus en automatique parce qu'il y a trop de déconnexions, parce qu'il y a des alarmes et qu'en fait ils ont arrêté ce système en raison de la contrainte du système. Donc le pancréas artificiel, ce n'est pas un objet magique qui règle tout, hein, puisque vous voyez que l'expérience du terrain montre que ben, y a quand même pas mal de bugs, en tout cas pour ce système-là. Alors ça s'améliore. Si on regarde les données du système Tandem Control IQ qui ont été présentées à l'ADA, donc je vous rappelle cette pompe Tandem qui est une pompe digitale sous-cutanée avec un capteur G6, avec... La différence par rapport au système Minimed, c'est qu'il va y avoir une correction automatique en cas de déviation des hyperglycémies. Donc il y a beaucoup moins d'alarmes puisque le système va corriger automatiquement les hyperglycémies. Et on voit que là, on obtient ici sur une période, donc sur l'ensemble de la journée, donc un contrôle qui est très bon puisque vous voyez que vous avez dans la cible visée 90% du temps pratiquement en fin de nuit, hein, et tout au long de la journée ça dépasse 70%, ce qui est les recommandations, et au fil du temps eh bien, on n'a pas cette érosion puisque sur une période de 6 mois eh bien, vous voyez que dans 92% la boucle fermée a été active et les patients sont maintenus en permanence à plus de 70% de temps dans la cible. Donc ça s'améliore. Hein. Le premier système Minimed a eu l'avantage de la primauté du pancréas artificiel, mais avec des limites. Et on voit que les nouveaux systèmes comme celui-là eh bien, sont beaucoup plus stables et beaucoup plus appréciés des patients, évidemment, puisqu'il y a beaucoup moins de déconnexions. Voilà, donc pour conclure, on peut dire qu'aujourd'hui, cette assurothérapie semi-automatisée, elle atteint les résultats, on peut obtenir en vie réelle, hein, vous voyez sur des périodes de 6 mois, donc plus de 70% dans la cible, peu d'hypoglycémie, très peu même, c'est de plus en plus stable sur le plan technologique. Il reste à démontrer à qui mettre ça, ça s'applique. Hein. Comme vous l'avez remarqué dans les études sont faites chez des bons patients, des patients qui sont déjà hyper performants, très technophiles. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'études faites chez des patients comme ceux qu'on voit tous les jours et à qui on rêverait d'avoir un système automatique, c'est-à-dire ceux qui font des hypofréquentes ou des hyperfréquentes. Donc pour l'instant, ces patients n'ont jamais été étudiés. On va commencer là, dans un mois une étude en France, justement, chez des patients qui font beaucoup d'hypoglycémie pour démontrer que ces systèmes sont utiles pour eux. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut le mettre à tout le monde indépendamment du contrôle glycémique? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme rite initiatique? Est-ce qu'il faut d'abord une pompe, un capteur, les deux, et ensuite passer au pancréas artificiel? Ou est-ce qu'on peut mettre ça à quelqu'un qui est sous multi-injection? La logique voudrait plutôt la première étape, c'est-à-dire d'abord maîtriser la pompe et puis un capteur et puis après passer en automatique. Hein, on ne peut pas piloter un avion en automatique si on ne sait pas piloter en manuel, c'est la base de la logique. Et puis, bien sûr, quelles sont les modalités de prise en charge par l'assurance maladie? Pour l'instant, il n'y a pas de règles. Les pompes sont prises en charge dans des conditions bien définies. Les capteurs, pour tous ceux qui ont plus de 8% d'hémoglobine ou des hypofréquentes, et notamment sévères, à qui l'assurance maladie va rembourser le système automatisé? Est-ce que ce sera pour tous les types 1? Ou est-ce que ce sera un peu ceux qui sont déjà bénéficiaires des capteurs et des pompes? Donc il y a des choses scientifiquement démontrées et des questions en suspens. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Donc on va enchaîner et savoir si à Robert Debré, on a des technophiles. Donc avec le professeur Tubiana Ruffi, donc à vous.
Merci beaucoup. Donc, en effet, on va parler du diabète de type 1 chez les enfants. Denis Racca vous a dit ce matin qu'on parlait peu du type 1 et beaucoup du type 2 chez les adultes, mais en pédiatrie, c'est la grande majorité de nos patients qui ont un diabète de type 1. Donc, on connaît bien le diabète de type 1. Et par contre, sachez qu'il existe aussi d'autres formes de diabète, comme le diabète de type 2, les diabètes de type maudit ou des diabètes génétiques chez les enfants. Mais ça représente environ maximum 20% des diabètes. Alors, quoi dire aujourd'hui du traitement des jeunes, des enfants et des adolescents? Donc le diabète de type 1 chez l'enfant, vous savez que c'est une maladie auto-immune qui aboutit à la destruction des cellules bêta, mais chez les enfants, en particulier chez les jeunes enfants, c'est une maladie auto-immune agressive qui aboutit à une destruction totale des cellules bêta, si bien qu'il ne leur reste aucune insulinosécrétion résiduelle. Et ça, ça explique l'énorme instabilité du diabète et les grandes difficultés à traiter les enfants atteints de diabète de type 1. Et donc une insulinothérapie à vie, soit par des injections sous-cutanées multiples 4 à 5 fois par jour, une injection de rapide à chaque repas, et les enfants mangent 4 fois, et une injection de basale, ou alors la pompe à insuline, avec donc un changement de cathéter, et donc on ne pique les enfants que tous les 3 jours. Dans quel contexte sommes-nous? Alors là, on ne parle pas de Robert Debré, on ne parle pas de la France, on parle du monde. Nous sommes dans une épidémie depuis longtemps, hein, ça date des années 80, la fin des années 90, de cette maladie. Vous connaissez bien l'épidémie de diabète de type 2, dont on a des premières données pour dire que ça stabilise. Pour le diabète de type 1, il y a aussi une épidémie mondiale qui atteint donc les enfants. Avec l'augmentation de l'incidence annuelle qui est de 3,4% par an. Hein, en moyenne. Et malheureusement, cet accroissement d'incidence est deux fois plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Vous voyez, donc on est à 6% par an. On est avec des enfants dans les services de pédiatrie qui s'occupent des enfants diabétiques petits et de plus en plus petits. J'avais regardé la moyenne d'âge de ces petits. Elle était plutôt vers 3-5 ans. Maintenant, elle est plutôt vers 1-2 ans. Donc on diminue en âge de révélation et dans les services de diabétologie pédiatrique, vous voyez des bébés, des petits. Et c'est le diabète le plus difficile à prendre en charge et des besoins importants, humains et d'éducation thérapeutique. Alors si on regarde l'incidence en France sur 25 ans, l'incidence du diabète des enfants de moins de 15-16 ans, a été multiplié par 2,5. On était à 7,4 d'incidence. Et dans les dernières données de Santé publique France, on est à 18, vous voyez. Donc on fait partie des pays qui ont quand même une incidence relativement élevée. Les taux les plus élevés, c'est dans le nord de l'Europe. On estime aujourd'hui à 21 000 jeunes d'âge pédiatrique les diabétiques de type 1. Aujourd'hui, environ 2 000 nouveaux cas par an et ça augmente. Alors, quels sont les défis plus spécifiquement pédiatriques? Bon, c'est à la fois d'atteindre des objectifs d'hémoglobine glyquée à long terme pour éviter les complications à l'âge adulte, hein, parce que plus la durée de diabète est longue et plus on a de risques de complications du diabète. Donc quand on commence jeune, le risque est élevé. Les objectifs sont inférieurs à 7,5, mais récemment abaissés pour les patients qui ont un accès complet à la prise en charge, complet. Suivi spécialisé, éducation thérapeutique structurée, technologie. On n'y est pas encore, je vais vous le montrer. Tout en réduisant la fréquence des hypoglycémies sévères et ou fréquentes et l'énorme poids, les énormes contraintes de cette maladie et de son traitement pour l'enfant, l'adolescent et sa famille. Donc là, on parle de qualité de vie. Je voulais juste vous montrer ici, de 1994 à 2013, l'épidémiologie des hyposévères. Vous voyez que ça a beaucoup diminué, divisé par 5, avec l'apparition des pompes. Voilà les pompes. Donc l'utilisation forte des pompes à insuline a déjà réduit, ça je l'avais publié il y a plus de 20 ans, la fréquence des hyposévères chez les enfants. Alors qu'est-ce qu'on a comme situation, spécificité du diabète des enfants ? Quand ils sont prépubères, chez les jeunes enfants de moins de 6 ans et chez les enfants prépubères, on va avoir un diabète caractérisé par un risque hypoglycémique élevé, et ça, c'est risqué pour un cerveau en développement, une grande instabilité glycémique, vous allez voir des grandes variations de la glycémie, vous voyez, ici, sur un tracé freestyle, voilà, d'un jour à l'autre ou au sein de la même journée, qui sont en train d'être démontrés comme étant aussi pas bon pour le cerveau, d'avoir des grandes variations. Les enfants, il y a le problème de la dépendance des adultes, quand ils sont toute la journée à l'école, à la crèche, etc. Bon, voilà, les problématiques de traitement, d'adaptation des doses. La peur de l'hypo, notamment la nuit pour les parents qui vont tout d'un coup se réveiller, aller faire une glycémie au bout du doigt et puis découvrir une hypo qu'ils n'attendaient absolument pas parce qu'il était hyper au coucher. La qualité de vie, bien sûr, de l'enfant et de la famille sont fortement engagées. Et puis la problématique ici des ados, complètement différente. Hein. C'est malheureusement à ces âges qu'on a les taux d'hémoglobine glyquée les plus élevés. J'ai mis record, malheureux, très difficile à prendre en charge. Donc à cet âge, les problèmes d'observance thérapeutique à une maladie extrêmement conflictuelle avec cette période de l'adolescence par ses contraintes. Et donc des oublis d'injection, aussi bien des oublis au repas, par exemple, qu'en basal. Et puis, c'est des jeunes qui veulent vivre au présent. Donc, c'est difficile, une maladie où on ne se sent pas si mal, de se projeter dans l'avenir, alors qu'on est adolescent, vit au présent, vit comme les autres. Voilà. Alors, ça, c'est des données. Vous avez vu pas mal de données. Ça, c'est les données d'un registre américain de diabétiques de type 1. Et ce registre, vous voyez, porte sur 22 700 personnes depuis le bébé jusqu'à l'âge de 80 ans. Ces données-là sont des données longitudinales, avec en rouge l'évolution des hémoglobines glyquées dans les années 2010-2012 et en bleu dans les années 2016-2018. Et j'ai fait figurer les cibles, 7,5 pédiatrique, 7 chez l'adulte. Bon, donc ça, c'est publié en 2019, donc ce n'est pas tellement rassurant. On voit que l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, c'est chez 21% des adultes. On a vu tout à l'heure 25% à peu près. Hein. Et chez les jeunes, si on prend la cible 7,5, ça va être 1 sur 5 qui est dans la cible, 37% des adultes. Les données en Europe sont un peu mieux que ça. On vient d'avoir un registre européen qui a été publié ce mois-ci. C'est un peu mieux. Donc ça veut dire qu'on a du boulot et voilà, c'est 30 ans de bataille pour moi que je résume dans l'histoire des technologies du diabète ici. où finalement, vous voyez, depuis la découverte de l'insuline, l'autosurveillance, hein, qu'est-ce qui a été marquant ? L'autosurveillance début des années 70, la mesure de l'hémoglobine 1C fait dans fin des années 70, les premiers stylos injecteurs, dont j'ai fait la première étude pédiatrique et j'ai attendu 2 ans pour la publier, pour bien convaincre tout le monde que les enfants pouvaient être traités par des multi-injections et le demander. Ça, c'était autour des années 85, quand j'ai commencé ma carrière. Les premières pompes, qu'on a commencé aussi chez les enfants, les analogues rapides. Et puis, beaucoup plus tard, la mesure continue du glucose, d'abord en Holter, vous voyez, début des années 2000. Puis, le premier essai thérapeutique chez des adultes et des enfants, auquel nous avons contribué, publié en 2007, de la mesure continue du glucose en temps réel. Ensuite arrivent les essais dont Éric Renard a parlé du pancréas artificiel chez les adultes et nous menons ensemble la deuxième étude française chez des enfants prépubères. Ici, très très important, combien de temps il faut entre le moment où nous, les experts, nous commençons à utiliser dans des essais thérapeutiques des dispositifs innovants et le moment où ils sont remboursés. Pompe à insuline, on les utilise depuis le début des années 80, des années de bataille, dont des acteurs sont présents, dont moi pour la pédiatrie, remboursement des pompes fin 2000. Éducation thérapeutique, éducation thérapeutique, inscrite dans la loi de santé en France, bataille de la diabétologie française, livre blanc, Serge Halimi dans les années 90, mais on est content que ça soit là. Sauf que ça ne donne pas de moyens. C'est reconnu, simplement. Les essais cliniques. Alors, les capteurs. Alors là, moi, j'ai souffert. Hein. Moi qui avais commencé la mesure continue du glucose en 2006, et je savais l'immense intérêt pour la pédiatrie, notamment pour réduire les hypoglycémies chez les enfants. Bataille jusqu'à 2017, remboursement du freestyle libre. 2018, de 2 autres capteurs, système Enlight et Dexcom. Voilà, donc aujourd'hui, on a la prise en charge complète depuis 1 an et demi. Voilà, la pompe, les capteurs, l'éducation thérapeutique structurée pour chacune de ces technologies, en plus de l'éducation diabétologique, et donc le pancréas artificiel dont on va dire un mot. Alors ça, c'est intéressant, dans la même étude que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces mauvaises hémoglobines 1C, ils ont regardé injection uniquement, pompe uniquement, injection plus mesure continue, pompe plus mesure continue par tranche d'âge. Et ça, c'est intéressant de voir que les enfants américains, ils utilisent la pompe quand même pour un peu plus de 60% d'entre eux. Ils utilisent la mesure continue pour 37%, et chez les très petits, c'est une très bonne indication, 50%. Et vous voyez que entre stylos, par exemple, injections ici, des injections, et les injections avec la mesure continue, vous gagnez 1% d'hémoglobine glyquée. Hein. Si vous prenez la pompe, là je parle des moins de 13 ans, hein, la pompe, et qu'on ajoute à la pompe la mesure continue, elles peuvent être couplées bien entendu dans certains dispositifs, chez les moins de 13 ans, on gagne 1%. Et c'est pareil à tous les âges. Vous voyez, dans toutes les tranches d'âge, si on prend les jeunes adultes, les technologies, comme la mesure continue du glucose, vont ajouter à la pompe qui, elle-même, ajoute aux multi-injections. En tout cas, en pédiatrie, c'est très net. Voilà, donc, pourquoi la pompe est tellement importante chez les enfants ? Ça, c'est la première chose que j'ai fait dans ma carrière, après les stylos et les pompes. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont des spécificités de besoins en insuline, notamment des besoins en insuline faibles la nuit, et que ça, vous ne pouvez pas le faire avec une insuline basale, suivre la physiologie. Ils ont des très petites doses, il faut les faire varier de très peu. Et seule la pompe le permet, ça. Voilà, des débits programmables, des ajustements de bolus, des ajustements de basale très faibles. Et donc aussi, ça permet de piquer l'enfant que tous les 3 jours au lieu de 5 fois par jour. Ça change la vie hein, des enfants et des parents. Voilà, donc maintenant, depuis 3 ans, on a des patch pompes. Hein, on le voit à peine sur la photo, hein, le patch pompe, il est là. Voilà, beaucoup de succès. On a les analogues rapides depuis longtemps. On a la sécurité avec l'autosurveillance par l'acétonémie, insulinothérapie fonctionnelle, les calculateurs de bolus, couplage à la mesure continue du glucose. Vous avez là ce que j'appelle le trio gagnant. Voyez le succès du traitement par pompe. Voilà, le remboursement fin des années 2000. Moi, avec l'aide de logistique de la JD, j'ai formé toute la France au traitement par pompe en pédiatrie. Et vous voyez qu'en 2017, on n'avait que 10%. Allez, il faut s'organiser, il faut se former, etc. On arrive en 2018 à 60% des enfants en France, dans notre pays, traités par pompe. C'est beaucoup plus que chez les adultes et c'est une bonne chose. Voilà. La mesure continue du temps, en temps réel du glucose. Alors, vous avez plusieurs systèmes. Le système Flash, c'est ce freestyle libre d'Abbott qui est une vraie révolution dans l'autosurveillance des enfants. Vous voyez, quand vous avez un enfant de 3 ans diabétique, les parents, ils faisaient 10 glycémies par jour. Hein, et ils se réveillaient la nuit, ils allaient regarder la glycémie. Bon. Avec le freestyle libre, on scanne. On a un capteur qui vaut 2 semaines et qui informe tout le temps et qui fait des rapports pour faire l'évaluation. Donc ça a été vraiment changé. Ça a changé la vie des enfants diabétiques et des parents. Et donc aujourd'hui, plus de 80% des enfants diabétiques de type 1 français sont équipés. Et pris en charge, bien sûr, depuis 2017. Les systèmes avec alerte, c'est différent. Donc comme le système, le capteur Enlight de Medtronic ou le capteur Dexcom G4, les deux remboursés depuis le premier semestre de l'année 2018, qui par exemple pour le Enlight est couplé à la pompe, mais le Dexcom G4 et on espère bientôt G6 peut être utilisé chez des patients sous stylo qui ne veulent pas de la pompe. Alors le vraiment prémisse du pancréas artificiel, c'est quand on a eu la possibilité d'utiliser des pompes qui sont capables, avec le capteur, d'arrêter l'insulinothérapie par pompe pour 2 heures quand le patient atteint une valeur hypo et dort, par exemple, n'a pas entendu l'alerte. Vous voyez, donc ça a été un progrès. On le trouve et on l'utilise. Et maintenant, on peut l'utiliser puisque c'est commercialisé. L'arrêt avant hypoglycémie, c'est prédictif. C'est le système 640G Enlight de Medtronic. Et je peux vous dire que, comme on le suspectait, chez les enfants qui ont un haut risque d'hypoglycémie la nuit, c'est-à-dire les jeunes enfants, c'est un grand bénéfice sur le risque d'hypoglycémie. Voilà, je montrais ça, ce que j'appelle le trio gagnant, en attendant le pancréas artificiel. Avoir une pompe, avoir appris par l'éducation thérapeutique à adapter la dose du repas, c'est l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire je vais corriger ma glycémie si elle est élevée avant que je mange, et puis je vais compter mes glucides, je donne toutes ces informations-là, la pompe les a, la pompe me propose une dose, et j'appuie sur un petit bouton, et donc j'améliore ma glycémie, mon contrôle du repas. Et puis la mesure en continu du glucose dont je viens de vous parler, voilà. Pourquoi je montre ça? C'est aussi pour vous montrer l'importance dans les technologies de l'éducation thérapeutique des patients. On l'aura tout le temps, les besoins de personnel compétent, de personnel expert, de personnel formé, personnel capable de former les patients jusqu'au pancréas artificiel qui arrive là. Donc je n'ai pris qu'une diapo pour compléter ce que vous a dit Eric Renard. C'est que cette délivrance automatisée de l'insuline, les enfants, les parents en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce que même s'ils font tout avec mon trio gagnant, ils arrivent entre 40 et 60% de temps dans la cible. Mais 60%, c'est rare. C'est très, très rare. On est plutôt à 40% dans les bons cas. Et c'est trop loin, ça. Ça veut dire qu'ils ont encore des hypos et qu'ils ont encore des hyper. Donc, c'est un diabète instable, il est dur à traiter. Alors, si on a une pompe, une mesure continue, un algorithme de contrôle ajusté pour les enfants et testé, on peut fermer la boucle. Et c'est notre deuxième étude, voilà, les mêmes centres. Cette fois, c'est une étude longue, chez des enfants prépubères. On a en ce moment, avec Eric et mes collègues de Tours, Angers, Montpellier, Paris, Robert Debré, 120 enfants à la maison, tranquilles, qui vivent leur vie, qui vont à l'école, à la crèche, qui vont faire du sport et qu'on accompagne par des visites, parce qu'on n'a pas voulu faire de télésurveillance, on a voulu leur apprendre à gérer ça. Et donc, c'est pour des mois, hein, pour 9 à 10 mois, cet essai randomisé contrôlé, dont nous avons des premiers résultats très, très intéressants qu'on va présenter prochainement au Congrès international de pédiatrie, et une satisfaction des familles incroyable, parce que quand on voit des tracés normaux comme ça chez des enfants, tout dans la cible, nuit après nuit, nuit après nuit, ce patient-là qui était mal équilibré, Eric, on a des patients qui ont commencé l'étude à 9,5%. Hein. Voilà, on en a d'autres qui n'étaient pas si mal équilibrés, mais bourrés d'hypo. Donc on a des patients, le tout venant malgré tout, hein, ils se sont jetés sur la proposition tous. Voilà, donc on a eu nos 30 sans problème. Et maintenant, il y en a 120 et on va exploiter ça bientôt, dans quelques mois. Et donc là, du coup, hein, on est dans la révolution dans le traitement. Moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience du diabète des enfants. J'ai fait toutes ces batailles. Et je peux vous dire que ce que je vois, je ne l'ai jamais vu. Ce que je vois en termes de nombre de valeurs dans la cible, de réduction des hypos, satisfaction des gens. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, on a essayé de faire, de brosser un petit peu l'insulinothérapie du diabète de type 2 au diabète de type 1. J'ai juste le temps de proposer de poser une à deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur? Oui, allez-y. Attendez.
Bonjour. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant d'incidence de diabète depuis les années 80? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est, je sais pas.
Oui, c'est des années de recherche épidémiologique mondiale qui ont commencé avec l'observation qu'il y a plus de diabète de type 1 pédiatrique dans le nord de l'Europe, par exemple, que dans le sud. Donc il y a eu des recherches. Maintenant, ce qui est difficile, c'est d'arriver... quand le diabète arrive, les cellules bêta sont détruites. Donc, les facteurs qui causent, entre guillemets, le diabète, c'est avant. Okay ? Et ça peut être très avant. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des populations plus susceptibles génétiquement, mais c'est qu'une part du risque. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des facteurs d'environnement. Et ces facteurs d'environnement, ils sont multiples. Certains virus sont impliqués, des toxiques, de la pollution, des pesticides, des produits de l'environnement qui vont aller dans l'eau, dans le lait qui est donné au bébé, etc. Des événements qui se passent pendant la grossesse, tout ça. Bon, on pense qu'il y a plusieurs facteurs, voilà. Mais... la seule bonne nouvelle que j'ai, c'est que dans les pays où l'incidence est la plus forte, comme par exemple en Finlande, après une augmentation comme ça, ça a l'air de se stabiliser sur les dernières années. Je parle de l'incidence du diabète de type 1 des enfants.
Oui, vous aviez une question? Allez-y, madame.
J'en ai deux. La première, c'est qu'on a une population qui s'informe beaucoup et le régime low carb... les poussent parfois à dire « oui, je ne suis pas sûre d'être diabétique, attendez, je vais d'abord faire mon régime, etc. » Et on se retrouve comme ça avec des patients qui refusent le diagnostic de diabète et qui démontrent qu'après le régime low carb, leur hémoglobine glycée baisse, etc. Ça, c'est la première question. Que faire par rapport à ça? Deuxièmement, c'est la personne âgée. Est-ce qu'il faut être très rigoureux, très strict sur l'HbA1c? Est-ce que les hypoglycémies... induisent éventuellement des effets sur la mémoire ou sur les troubles neurocognitifs des personnes âgées? Merci.
Alors, Madame Dijoux, peut-être. Voilà.
Sur le régime low carb, Personnellement, je n'ai pas d'expérience, évidemment, on ne l'utilise pas. Je dirais que c'est un régime, donc forcément, peut-être que sous ce régime, ils vont avoir une glycémie meilleure, mais ils ne vont pas le tenir. Donc forcément, les glycémies vont remonter. Hein, c'est toujours sur le long cours. Hein. Il faut bien leur expliquer la différence entre tous ces régimes, qui sont les régimes hyperprotéinés, en fait, qu'on connaît depuis pas mal de temps. Hein. C'est à peu près pareil. Et les alimentations équilibrées avec 50% de glucides à peu près qu'on recommande généralement. Ensuite, chez la personne âgée, comme chez les autres, avant qu'ils soient très âgés, je pense que les grosses variations glycémiques, ce n'est pas bon pour le cerveau. Ça, y a sûrement des études qui l'ont montré, que ce soit en hypo ou en hyper, et les variations. Et votre question chez la personne âgée, c'était ?
Est-ce qu'il vaut mieux être objectif ?
Ah. Oui, en fait, les objectifs d'hémoglobine, ils avaient été modulés en fonction de l'état général du sujet. Hein. C'est-à-dire que plus le sujet est en bon état général, et plus on aura un objectif d'hémoglobine glyquée bas. Hein. Et plus le sujet est altéré, et moins on sera rigoureux, je dirais.
Oui, il faut se référer aux dernières recommandations hein, de la HAS, et notamment chez les sujets fragiles et les sujets âgés, où vraiment on pondère la cible glycémique. Hein. On peut accepter des HbA1c à 8 chez des sujets
8,
fragiles.
Oui, voire 8,5 chez des sujets vraiment déjà altérés.
Oui.
Bonjour. Bonjour, interne en médecine générale. J'ai une question sur l'immunothérapie. Où en sommes-nous, notamment pour les enfants ? Où en sommes-nous ?
Il y a eu, on va dire, depuis 30 ans, différents essais dans l'immunothérapie en pédiatrie. Hein. Donc, dans le diabète de type 1, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas dire qu'on ait eu des vraies réussites. Par contre, il y a eu des essais qui ont montré une préservation de la sécrétion endogène d'insuline, ce qui est quelque chose d'important. Si vous avez zéro de sécrétion endogène ou si vous en avez un peu, ça change totalement tout sur la stabilité du diabète, les résultats du contrôle hein, de l'hémoglobine glyquée ou du temps dans la cible. Bon. Mais c'est vrai que ça mériterait une session spéciale hein, de parler de l'immunothérapie. Mais on n'en a pas entendu parler sur le ASD ce matin. Il n'y a rien eu de spécial.
Oui, alors on prend une dernière question.
Juste une petite question incidentelle, j'allais dire. Quelle est la proportion des enfants non insulinodépendants ? Maudit ou pareil. Combien en rencontrez-vous ? Parce qu'on voit, nous, comme diabétologues adultes, nous les voyons parfois. Quelle est l'incidence ?
D'accord. Alors, moi, j'ai monté un registre hein, de notre centre. C'est très difficile à faire au niveau national, parce que pour faire les diagnostics des autres formes de diabète, faut une expertise. Entre un diabète de type 1 obèse et un diabète de type 2 pédiatrique, c'est pas facile de faire le diagnostic. On n'a pas de preuve du diabète de type 2 aujourd'hui. Je ne peux pas faire une prise de sang à quelqu'un si j'hésite entre les deux. C'est vraiment la connaissance de ces deux formes. Même les anticorps du diabète de type 1, on peut les trouver dans des types 2 pédiatriques. Bon, bref. Pour vous dire, dans notre centre qui suit... Voilà, depuis des années, près de 1000, une cohorte stable de 900 000 enfants diabétiques. Chez nous, qui sommes un centre ultra spécialisé dans le diabète de l'enfant, on a 70-75% de diabète de type 1. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait il y a 20 ans où on était à 90-95%. Pourquoi ? Parce qu'on diagnostique mieux quand même les autres formes de diabète et parce que malheureusement, des formes comme... on diagnostique mieux les maudits, les diabètes monogéniques. On a un catalogue. Quand on suspecte un diabète monogénique, maintenant, on envoie et on nous fait le screening de 6 ou 7 gènes. On diagnostique mieux cela. Chez nous, ils font à peu près 10% des diabètes monogéniques, tout compris. On a des diabètes rares. Nous, on a des diabètes lipoatrophiques, on a des mutations rares. Et on a du type 2, pour lequel voilà, ça monte doucement, moins vite qu'aux États-Unis, mais je les ai vus apparaître après avoir lu l'épidémie de diabète de type 2 aux États-Unis, avec un décalage de 10 ans. Sauf que nous, voilà, on contrôle mieux l'épidémie d'obésité en France des enfants. Voilà. Donc on a des types 2 qui vont faire aller 10% de la population des nouveaux cas de diabète, hein, mais qui vont représenter pas loin de la moitié des découvertes de diabète à l'adolescence. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, Serge, si tu regardes les 13-15 ans, tu vas avoir... non, parce qu'on a parlé ensemble type 2 pédiatrique. On va avoir beaucoup maintenant de type 2 chez des adolescents obèses, presque autant que les types 1, parce que les types 1, ils surviennent avant maintenant. Il y a un déplacement de l'âge du diabète de type 1.
Alors écoutez, on est obligé de conclure cette table ronde. Je remercie vivement les orateurs qui nous ont accompagnés sur cette thématique.